Encore bonjour à tous. Merci de m'accueillir, de me supporter. Quelques nouvelles peut-être de l'un ou l'autre à Ingviller. Vous voyez qu'une partie de ces églises de maison donc d'Ingviller est ici. On a notre frère Jackie qui va aller en maison de retraite demain à la Petite Pierre. Bon, ben, ce sont des personnes pour la plupart fragilisées par l'âge, la vieillesse. Mais voilà. Ah non, Sophie, elle est au ciel. Elle a quitté ce bas monde. Oui. Oui, alors en ce qui me concerne, je suis un petit peu sur deux églises en fait. Je suis à la fois à Ingviller et j'ai des engagements aussi à l'église de Beach. Donc en principe, j'y vais une fois par mois, voire un peu davantage, et je suis particulièrement engagé dans le cadre de l'évangélisation et notamment l'effort d'été. Nous sommes allés dans les villages alentours en évangélisant de différentes manières et le Seigneur a particulièrement béni. Voilà. Ce matin, je vais vous partager un passage dans la Genèse. Genèse chapitre 20. Alors on va lire tout le chapitre et je vais relever quelques éléments. Il s'agit d'Abraham. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sara, sa femme, « C'est ma sœur ». Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sara. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit, « C'est ma sœur ?» Et elle-même n'a-t-elle pas dit, « C'est mon frère ?» J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. » Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimélec se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché ? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimélec dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. » Abimélec prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham et lui rendit Sarah, sa femme. Abimélec dit, « Voici, mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous, tu seras justifié. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Si nous n'avions que ce récit concernant la biographie d'Abraham, alors nous n'aurions devant nous qu'un épisode peu glorieux de la vie de ce grand patriarche. Lui, Abraham, le père de la foi, eh bien oui, lui aussi reste un homme de la même nature que nous. Dans ce texte, dans cet épisode, nous trouvons deux hommes. Abraham, roi des croyants. Abimélec, roi de Guérar. C'est le roi des Philistins. Et surtout, nous trouvons Dieu, le roi des rois. Nous voyons Abraham se laisser entraîner dans le mal. Ici, il tombe plus bas que les autres hommes. Il s'abaisse aux yeux d'Abimélec. Il a recours au mensonge afin de préserver sa vie. Mais comment Abraham a-t-il pu se laisser entraîner dans le péché ? Parce que si vous lisez, vous relisez les chapitres précédents avec l'histoire de Sodome et Gomorre et l'intervention magnifique d'Abraham pour intercéder en faveur de Sodome et Gomorre et notamment de Lot, là il était au sommet. Et maintenant il est dans l'abîme. Comment Abraham a-t-il pu se laisser entraîner dans le péché ? Tout au début de ce chapitre, nous lisons ou relisons « Abraham partit de là ». Abraham était alors dans le pays de Canaan. Il était là où le Seigneur lui avait ordonné d'aller pour s'y installer. Il était là où le Seigneur lui avait ordonné d'être. Il était dans le pays de la promesse. Donc, Abraham, il quitte le pays de la promesse, il quitte sa position élevée. Certes, les lieux dans la Bible ont un sens spirituel, hein, presque toujours. Certes, il ne va pas jusqu'en Égypte, il s'arrête à la frontière. L'Égypte représente le monde, donc il ne va pas au cœur du monde, pourrait-on dire. Mais Guérar, c'est déjà l'endroit de la compromission. Je fais une distinction entre compromis et compromission. Et Et que dit Abraham de Sarah, sa femme? Il ne dit pas ça. Il dit, c'est ma sœur. Oui, après, quand il est amené à confesser son péché, en quelque sorte, il va dire à Abimélec, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et là, il dit, hein, il confesse. Et elle est devenue ma femme. C'est sa sœur, sa demi-sœur. Hein. En fait, il dit une demi-vérité. Or, une demi-vérité, c'est déjà un mensonge. Il avait déjà dit quelque chose comme ça avant. Je vous lis au chapitre 12, alors on est au chapitre 20, quand il était allé faire un tour en Égypte, alors qu'il n'aurait pas dû. Je vous lis. Comme il était entré en Égypte, il dit à Sarai, c'était pas encore Sarah, c'était Sarai, c'est la même personne, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront en la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » On apprend ici qu'il y avait eu un arrangement entre les deux. Hein. Ils s'étaient mis d'accord. Abraham et Sarah s'étaient mis d'accord hein, pour que Abraham ait, soi-disant, la vie sauve. Lorsque tu t'installes, alors je vous rappelle quand même que quand un prédicateur prêche, quand il donne un message, eh bien le message, il a d'abord été pour lui. Hein. Il l'a d'abord reçu, lui. Il a reçu la leçon, lui. C'est pourquoi qu'après je dis « tu ». Pour toi, individuellement. Lorsque tu t'installes à Guérar, au pays de la compromission, tu te laisses alors saisir par le même sentiment qu'Abraham. C'est-à-dire, Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. » Le sentiment qui envahit Abraham, c'est la crainte des hommes. La crainte des hommes. Or, la crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. Dans cet épisode, ce qui a manqué à Abraham, c'est la foi. Mais dans ce texte, moi, ce qui m'a frappé, entre autres, mais particulièrement, que dit Dieu à Abraham? On ne va pas relire tout le texte, hein. Il est un peu long, mais apparemment, rien. Dieu ne dit rien à Abraham, ça alors. En revanche, Dieu parle à Abimélec, la victime d'Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit à Abimélec? Alors là, je vais vous donner la traduction littérale, traduction d'Arbi, au verset 3. Dieu dit à Abimélec, il lui dit, « Tu es mort !» Il ne dit pas « tu mourras », la conjugaison est importante. Hein. Il lui dit « tu es mort ». Un peu plus loin, il dit « tu mourras ». « Tu es mort ». Tout ceci semble bien étrange. Comment un Dieu juste et saint peut-il s'apprêter à punir l'innocent et à absoudre le coupable? Hein, apparemment, humainement parlant, c'est ça. Si j'ai que ce texte, que je connais rien ou pas grand-chose du Seigneur, de la Bible, ben, je me dis, c'est pas juste. Ce que s'apprête à faire Dieu, il s'apprête à punir un innocent et il dit rien du coupable, hein, au contraire. La réponse, elle est là. Voilà ce que Dieu dit à Abimélec. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Ça alors. Toi aussi, si tu appartiens à Christ, dans un certain sens, tu es prophète. Ça ne veut pas dire que tu vas prédire. Encore que, en lisant la Bible, tu peux prédire aussi, hein, certaines choses. Mais tu vas parler au nom du Seigneur Jésus, au nom de Dieu. Tu vas être son porte-parole en témoignant ou en évangélisant. Tu es prophète d'une certaine manière. Tu es appelé à confesser le beau nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cette histoire peut nous enseigner dans notre vie quotidienne? Comme Abraham, en toi-même, en moi-même, hein, en nous-mêmes, tu es un être pauvre, faible, imparfait, sujet à l'erreur et à toutes sortes d'inconséquences. Et c'est parce que le monde prend connaissance de ce que tu es par toi-même et de cela seul qu'aux yeux du monde, tu peux passer pour pas grand chose. Cependant, Dieu te voit en Christ. Et comme pour Abraham, Dieu révèle autre chose. Il est prophète. Dieu en Christ te voit sans tâche. Sans tâche. Et c'est à Dieu et à lui seul qu'appartient le privilège de manifester la beauté, la dignité et la perfection de son peuple. Dieu manifeste la beauté, la dignité et la perfection de son peuple. Tu n'as de beauté que celle que Dieu a mise sur toi. Tu n'as de force que celle que Dieu t'a accordée. Tu n'as de noblesse que celle que Dieu t'a conférée. Que dit Dieu à l'adversaire alors que nous chutons si aisément? Dieu dit, je n'ai point aperçu d'iniquité en Jacob, ni n'ai vu d'injustice en Israël. C'est dans le livre des Nombres, avec l'histoire de Balaam, hein, ce devin qui a été obligé par le Seigneur à bénir le peuple d'Israël et non à le maudire. Je n'ai point aperçu, c'est Dieu qui parle, d'iniquité en Jacob, ni vu d'injustice en Israël. Et si on connaît l'histoire de Jacob, hein, et l'histoire d'Israël, ça paraît bizarre, hein. Attention, Dieu ne dit pas qu'il n'y a pas d'iniquité, c'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il n'en a pas aperçu, qu'il n'en a pas vu. Alors est-ce que notre Seigneur serait aveugle? Hein, il y a de l'iniquité, mais il ne l'a pas vu. Ben non, non, il ne l'a pas vu, il n'est pas aveugle, puisqu'il l'a ôté. Il a ôté l'iniquité. Quand tu pèches et que tu demandes pardon, c'est fini, hein? Il faut faire une distinction entre la conviction de péché qui vient de l'Esprit-Saint et l'accusation qui vient d'en bas. L'ennemi de ton âme, il t'accuse. Le Saint-Esprit, il te convainc de péché. C'est pas la même chose. Moi, quand je suis accusé, ça m'arrive souvent. Ah, qu'est-ce que je suis écrasé. Et quand le Seigneur me montre, mais tu as confessé ton péché il y a 5 minutes, là. Moi, je l'ai oublié. Et toi, tu l'oublies pas. Et te laisse pas prendre au jeu de l'ennemi. Je n'ai point aperçu, c'est Dieu qui parle, d'iniquité en Jacob, ni n'ai vu d'injustice en Israël. Il dit ça à l'ennemi de nos âmes. Le Seigneur ne dit pas qu'il n'y a pas d'iniquité, mais il n'en aperçoit pas, il les a ôtés. Il faut le croire. Le Seigneur se place toujours entre les siens et toute bouche qui s'avance pour les accuser. Oui, le Seigneur se place entre toi et tous ceux qui s'avancent pour t'accuser dans le monde invisible et qui utilisent parfois des êtres humains. Le Seigneur ne répond pas à l'accusation en tenant compte de ce que tu es par toi-même, ni de ce que tu es aux yeux des hommes du monde. C'est pas grave, si les hommes du monde y racontent tout et n'importe quoi sur toi. Laisse-les parler, Laisse-les parler. Parfois, on veut tout le temps se justifier. C'est vrai qu'il peut être bon de justifier une action. Mais tu n'as pas besoin de te justifier toi-même, c'est Dieu qui Dieu fait l'œuvre. Dieu répond à l'accusation, en tenant compte de ce qu'il a fait pour toi, de ce qu'il a fait pour toi, de ce qu'il fait aussi en toi, et de la nouvelle position que tu occupes. Et tu n'es pas citoyen de la terre, Normalement, tu es ambassadeur, donc tu es représentant. On en a parlé tout à l'heure. Tu es un représentant. Ce n'est pas ta patrie ici, C'est là-haut ta patrie. Alors, de temps en temps, on est des drôles d'ambassadeurs, On s'est tellement... moulé ou je ne sais pas comment... On devenait tellement à l'aise dans le monde qu'on n'est plus trop ambassadeur du ciel. Mais le Seigneur répond à l'accusation en tenant compte de ce qu'il a fait et de la nouvelle position que tu occupes. Ici, dans ce texte, alors que le roi de Guérar, malgré son intégrité, n'est qu'un homme mort. Abraham, malgré sa faute, est vivant. Il est vivant. Autour de toi, il y a plein de cadavres, d'ambulants, des personnes qui existent, mais qui ne vivent pas. Le roi de Guérar, malgré son intégrité, n'est qu'un homme mort. Abraham, malgré sa faute, est vivant. Et c'est lui, Abraham, qui peut intercéder. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Amen.